Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwa Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé.
Bonjour à tous, bien bonjour et bienvenue dans Priorité Santé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On parle de la jalousie. Un regard un peu trop appuyé, un SMS reçu tard dans la soirée, un retard et voilà que vous suspectez votre conjoint de vous tromper. Certes, nous avons tous ressenti au moins une fois dans notre vie de la jalousie. Dans le couple, on dit souvent qu'elle est une preuve d'amour, mais quand elle tourne à la maladie, cela devient vraiment infernal. Dans le milieu professionnel aussi, nous avons pu ressentir de la jalousie vis-à-vis d'une personne qui réussit. Mais au fond, qu'est-ce que la jalousie? En quoi se différencie-t-elle de l'envie? Et quand elle devient maladive, la jalousie peut empoisonner la vie et même finir en crime passionnel. Comment la vaincre? Est-ce que ça se soigne, docteur? Comment apprendre à avoir confiance en soi? Comment un psychologue aussi peut-être peut nous aider à surmonter ces sentiments envahissants? Nous en parlons aujourd'hui avec Marie-France Paty. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, je vous remercie.
Alors vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute et vous publiez La jalousie, la métamorphose de l'envie aux éditions InPress. Vous êtes intervenante et secrétaire également de l'association de psychanalyse EPSI. C'est l'école propédeutique de la connaissance de l'inconscient. C'est situé à Paris. C'est un terme un peu barbare. C'est quoi l'école propédeutique?
C'est une école qui prépare en donnant des bases théoriques très solides pour pouvoir après avoir une connaissance assez étayée et solide des concepts psychanalytiques et...
Ça s'adresse aux professionnels?
Non, ça s'adresse justement à un public, tout public qui s'intéresse et qui a envie de progresser dans cette discipline.
Alors, toutes vos questions, amis auditeurs, sur la jalousie aujourd'hui, donc au 33 1 84 22 75 75. Yann vous attend au standard. N'attendez pas la fin de l'émission pour intervenir. Et sinon, vous pouvez également vous exprimer sur notre page Facebook. À la fin de l'émission, menace sur le traitement du paludisme, la maladie parasitaire la plus meurtrière de la planète. Alors on en saura plus à la fin de l'émission avec Pierre Druil de Vac4All.
Je suis jalouse à en faire trembler les gens, à faire trembler mes jambes. J'ai plus qu'à plonger en silence, je pourrais flotter inerte, tu t'en balances. Et ça me rend, ça me pourrit, ça me rend tac, ça me fout en l'air. Quand je sais que tu t'envoies en l'air, de l'air, de l'air, de l'air.
La jalousie est au centre de nombreuses œuvres, hein, au cinéma, dans les livres, dans la chanson. Ici, c'est Mademoiselle K qui chante « Jalouse ». C'est vraiment le thème inspirant pour les artistes, pour les écrivains, oui. Marie-France Paty.
Oui, dans la littérature, depuis l'Antiquité, la jalousie, la passion jalouse, voilà, c'est un thème voilà, friand qui intéresse tout le monde parce que ça correspond à quelque chose qu'on a tous en nous et qu'on a tous vécu.
Alors c'est un thème inspirant, ça peut mener à des drames, hein, vous en parlez dans votre livre bien sûr. L'exemple d'Othello, hein, de Shakespeare qui tue sa femme car il est jaloux et il se rendra compte après qu'en fait elle est innocente.
Bah oui.
Donc ça peut aller très loin avec ces crimes passionnels quand la jalousie devient maladive, on en parlera tout au long de l'émission, mais on va tout de suite prendre le témoignage parce qu'ils arrivent nombreux de Christa aussi qui vit aussi justement un mari jaloux. Ce n'est pas Othello encore, mais c'est un mari jaloux. Bonjour Christa, vous nous appelez d'Abomey au Bénin.
Oui, bonjour.
Merci de témoigner, on vous écoute Christa.
Ben, voici mon témoignage. J'ai eu dans mon passé un homme qui était trop jaloux. Il me surveillait, donc j'ai compris que la jalousie était pour lui excessive. Il voulait tout le temps me contrôler. Tout le temps, il était là. Partout, je partais, il devrait être là. Quand j'ai des trucs à faire, il doit m'accompagner. Ça a été notre rupture.
Ça a été la cause, effectivement, de votre rupture, du coup.
Oui.
C'était insupportable. Et vous, c'était la première fois que vous aviez un homme jaloux comme ça ?
Oui, c'était la première fois.
Et du coup, ça ne pouvait pas être une relation épanouie pour vous ?
Non, parce que c'était trop, c'était insupportable.
Et vous savez s'il a continué d'être jaloux avec d'autres femmes après vous ?
Bon, j'ai appris qu'il s'est marié, mais je n'ai plus aucune nouvelle de lui.
Est-ce que vous avez une question, Christa, par rapport à cette histoire ?
Oui, j'ai beaucoup de questions. Je voulais demander comment vivre avec un homme si jaloux. Comment faire pour que la jalousie ne devienne pas son maître? Et est-ce qu'un homme jaloux est-il malade?
Merci beaucoup, hein, Christa, pour ces trois questions. Alors, beaucoup, beaucoup pour vous. Hein. Marie-France Batty, oui. On commence... Par laquelle
Est-ce que c'est difficile de vivre avec un jaloux? Oui, s'il est jaloux au point de vous enfermer, de vous empêcher de sortir, de faire votre vie, c'est insupportable. C'est très difficile de vivre comme ça. Ensuite, ça a dû être difficile pour vous d'ailleurs de le quitter. J'imagine que
oui.
Ça n'a pas été facile parce que il a dû essayer de vous retenir.
Oui.
Bah oui. Donc, c'est très bien que vous ayez pu vous en libérer. Quelquefois, c'est difficile aussi pour la personne parce que vous avez peut-être dû vous sentir coupable de l'abandonner, de le laisser, etc. Mais bon, c'est très emprisonnant de vivre avec un jaloux. C'est très, très difficile.
Alors, c'est vrai qu'on a tous ressenti ce sentiment aussi. Bon, là, c'était l'ami de Christa. On aura d'autres témoignages par la suite, parce qu'il y a déjà Bachir aussi qui a envie de témoigner derrière. Il faut quand même expliquer qu'à la base, c'est un sentiment tout à fait normal, la jalousie,
oui.
Marie-France Patti.
Oui, oui, c'est un sentiment normal. Ça fait partie de l'amour. On est jaloux parce qu'on aime la personne. On a envie de la garder pour soi. Mais quand ça devient totalitaire, on va dire, c'est insupportable. C'est enfermant. Parce qu'à ce moment-là, le jaloux, il est aveuglé par sa jalousie. Il ne voit même plus l'amour, et ça devient un enfer, rapidement.
Parce que là, c'est un désir de possession.
Oui, là, c'est vraiment d'enfermer la personne, de la prendre que pour soi, et ça devient, parce que, du coup, les soupçons, c'est même imaginaire, c'est même pas vrai, quelquefois. C'est lui qui se fait des vélos, quoi.
Des films dans sa tête,
et bon, donc, effectivement, là, ça devient maladif, et vaut mieux qu'il puisse consulter, ou...
Est-ce que quand on dit que ce sentiment, effectivement, tout le monde l'a ressenti, et vous-même personnellement, Marie-France Patti, vous avez connu cette souffrance ?
Oui, bien sûr, mais parce que je suis une personne, un être humain, donc comme tout être humain, oui, je suis issue d'une famille nombreuse, donc j'ai vu des jalousies entre frères et sœurs, moi-même j'ai éprouvé de la jalousie vis-à-vis de certains de mes frères et sœurs, c'est peut-être pas fini d'ailleurs, je ne sais pas.
On le connaît donc à tout âge, mais ça apparaît âge, oui. Dans l'enfance, à quel moment ça apparaît?
Souvent ça apparaît à la naissance d'un puiné, quoi, d'un enfant puiné. Mais on peut aussi être jaloux, si on est la deuxième ou la troisième, de la sœur ou du frère qui est au-dessus. Parce que lui, il comble les parents, il est plus intéressant, on a l'impression... Voilà, donc on est jaloux de celui qui est au-dessus de nous, on est jaloux de celui qui est en dessous parce que c'est le chouchou, enfin bon, voilà.
C'est parce qu'on a besoin d'exclusivité. Comme ça, quand on grandit, c'est une manière de...
Non, je pense que chaque enfant dans une fratrie a envie d'être l'enfant unique. Et l'amour des parents, l'amour, ça se partage pas, quoi. Même si on dit que les parents disent, et moi je suis parent aussi, je vous aime tous pareil, etc. Bien sûr. Mais du côté enfant, on a l'impression que voilà, l'amour, ça se partage pas. On n'a pas envie. En tout cas, on sait que ça se partage, on est obligé de l'accepter, mais on n'a pas envie que ça se partage.
Mais alors, au fond, d'où vient ce sentiment de jalousie, Marie-France Patti?
Ça vient de l'enfance, effectivement, quand on est obligé de partager l'amour avec d'autres. Et même au moment, en fait, le petit enfant, il est attaché beaucoup à un des parents. Quand même l'autre parent qui intervient, le père qui vient un peu mettre barrage à la relation maternelle qui est un peu trop quelquefois. Alors là, les rôles sont inversés, ça peut être différent, mais peu importe, c'est toujours celui qui intervient en tiers. On peut être jaloux donc des relations de l'autre parent avec la maman ou le papa.
Oui, c'est ce que vous écrivez. Ça vient effectivement de Freud. Hein. Enfin, on a besoin de jalousie pour vivre. Oui. Lui, il explique que la petite fille est jalouse de sa mère, car elle voudrait être en fait l'épouse de son père.
Oui, c'est, on voit bien. C'est une observation que tout parent a pu faire, quoi. La petite fille, je me marierai avec toi. Mais même quelquefois, la petite fille, elle le dit à sa maman, ou le petit garçon peut le dire à sa maman.
Ça veut dire qu'il aime sa
maman, comme, voilà, pour lui, c'est tout. Et il supporte pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui partage quelque chose avec elle que lui ne peut pas partager. Parce que.
Et donc, on a besoin de jalousie pour vivre?
Bon, on a besoin de jalousie pour se construire, en fait. Pour se construire, parce que du coup on se sépare de l'autre, on s'identifie soit par rapport à l'un et par rapport à l'autre, et donc ça c'est constructif en quelque sorte.
Alors on verra effectivement les différentes étapes hein, de cette jalousie, puisque ça peut aller jusqu'à la maladie. Mais là on va tout de suite entendre Bachir qui nous appelle de Niamey au Niger. Bonjour Bachir.
Oui, bonjour RFI, bonjour à tous les auditeurs.
Merci de nous appeler. Bonjour. Et de témoigner. On vous écoute, Bachir.
Oui, donc moi, j'ai l'impression que je suis victime de jalousie par rapport à mes différentes réussites de la part de certaines personnes.
Vous voulez développer un peu, oui, Bachir, c'est-à-dire vous sentez de l'envie de la part de vos amis ou de vos collègues
Oui, c'est ça justement, c'est ça.
Donc, quand vous faites des choses honorables, on va dire, et que vous leur annoncez, vous sentez qu'ils ne sont pas tellement contents pour vous, en fait?
Je sens qu'ils ne sont pas tellement contents, ils ne me félicitent pas, tout ça là. Mais quand je suis devant un échec, ils sont les premiers à faire semblant de compatir. Mais en fait, ils sont contents de mes soucis, quoi.
Ah oui, vous les sentez pas très sincères. Donc vous pensez que oui c'est ça. Ils envient vos réussites, donc ils sont jaloux donc de votre succès. Et comment vous arrivez à leur en parler de ça?
Non. Je n'arrive pas à leur parler parce que de peur de les mettre mal à l'aise.
Oui. Alors est-ce que vous avez une question donc par rapport à ce ressenti?
Oui, j'ai une question. Ça me blesse tellement. Maintenant, je veux savoir comment faire pour ne plus ressentir ces blessures.
Oui, parce que vous ne pouvez pas les empêcher d'être jaloux. Donc vous, comment ne pas vous sentir affecté de ces sentiments qu'évoquent vos amis ou vos collègues face à votre réussite, Marie-France Paty?
Oui. Mais donc ils sont jaloux de votre réussite, parce qu'effectivement on peut être jaloux aussi de la réussite professionnelle de quelqu'un. Mais il s'agit de vos collègues, de vos amis, de votre famille?
Oui, c'est ça.
Et ça vous blesse parce qu'en fait, vous ne sentez pas reconnu.
Voilà, exactement.
Bah oui.
Alors, comment il peut faire pour prendre de la distance par rapport
à... Alors, voilà, prendre de la distance. Ouais. Peut-être que vous attachez trop d'importance à leur avis, finalement. Est-ce que vous pourriez trouver une reconnaissance auprès d'autres personnes? Cette reconnaissance,
oui,
votre réussite professionnelle, elle est reconnue par d'autres personnes, certainement.
Oui, j'ai trouvé reconnaissance de la part d'autres personnes.
Voilà, donc, mais, essayez de vous attacher à ça, de vous centrer sur ça. Et, bon, les personnes qui ne reconnaissent pas votre réussite, effectivement, c'est la jalousie ou l'envie qui les anime. Et dites-vous qu'elles ne valent pas tellement, elles n'ont pas tellement d'importance, finalement.
D'accord.
Peut-être que vous leur attachez trop d'importance. Mettez-les un peu à distance, à l'écart. Finalement, elles ne valent pas la peine que vous intéressiez autant à elles.
D'accord.
Que vous preniez autant en compte leur avis.
D'accord.
Merci beaucoup, hein, Bachir, pour votre témoignage. Alors, d'où vient ce sentiment, comme l'exprime bien Bachir, l'envie... la différence déjà entre l'envie et la jalousie, alors, parce que là, il ressent l'envie dans le regard de ses collègues.
Mais l'envie, c'est beaucoup plus négatif que la jalousie. C'est un processus plus ancien dans la formation de la personne. Et ça se situe plutôt à un niveau d'une relation entre deux personnes. Et donc, c'est détruire l'autre pour lui prendre ce qu'elle a, pour se l'approprier. Et donc c'est très négatif parce que ça mobilise la haine.
Dans votre livre, vous écrivez que l'envie est symbolisée donc par le serpent dans la Bible.
Bien sûr, oui.
C'est cette envie de posséder ce qui procure du bonheur à l'autre.
Voilà, c'est ça. On a envie de prendre ce qu'à l'autre. On ne supporte pas que l'autre soit heureux, que l'autre jouisse de certains biens, de certains plaisirs, et nous, non. En fait, ça vient souvent d'une image négative de soi. C'est pour ça que c'est très difficile
Donc c'est encore plus négatif de la jalousie,
l'envie.
Ah oui,
c'est beaucoup plus négatif. La jalousie a quelque chose de positif parce qu'elle est stimulante. On compare, on a envie, mais on n'a pas envie de nuire forcément à la personne. Tandis que l'envie, l'envieux, il a envie de nuire à la personne. Il a envie de la détruire pour prendre ce qu'elle a. D'ailleurs, l'envie, enfin dans la Bible, si on prend la Bible, ça fait partie des péchés capitaux. Donc ça veut dire que c'est très grave. Alors que la jalousie, non.
Vous écrivez à la fin de votre livre sur la jalousie, donc aux éditions In Press, la jalousie habille le désir, l'envie maquille la haine.
Voilà, c'est un petit peu ça. Je trouve que c'est synthétique, mais derrière la jalousie active le désir finalement. Quand on est jaloux de quelque chose, mais voilà, on a envie du coup soit de faire mieux, soit de garder, donc de faire tout pour garder son mari ou son ami ou son amant, etc. Donc ça stimule un désir. Alors que la jalousie, c'est la haine qui fomente
l'envie.
C'est la haine qui fomente l'envie et du coup ça c'est un cercle vicieux. On n'arrive pas à s'en sortir parce que le point de départ, c'est une image négative de soi.
Dans les deux cas, ou pas ?
Non, pas tout à fait pareil. Dans l'envie, c'est vraiment l'image négative. Alors que dans la jalousie, c'est un manque de confiance en soi, c'est un désir d'être mieux, d'être plus, d'avoir mieux. Vous voyez, donc, il y a une image positive derrière qui se profile. Mais dans l'envie, non.
Est-ce que dans la jalousie, il y a aussi ce sentiment ou cette peur de perdre ? De perdre l'eau, de
se sentir
abandonné,
de
se retrouver tout seul comme le pauvre bébé abandonné.
Oui, dans la jalousie, il y a la peur de perdre l'autre. C'est même ça, l'angoisse du jaloux, c'est de perdre ce qu'il a. Même le collectionneur, parce qu'on est jaloux de sa collection. Bon, mais on veut le plus possible de choses et on a peur de perdre, je sais pas, un timbre ou un élément de la collection.
Alors, on va voir si ça parle à Martine, qui nous appelle de Brazzaville du Congo et donc qui a composé le 33 1 84 22 75 75. Bonjour Martine.
Bonjour.
Alors là, on parlait un peu de vous, puisque vous êtes très jalouse aussi. Alors racontez-nous votre témoignage. On vous écoute, Martine.
Oui, au fait, j'avais un petit ami avec qui nous avions fait des projets de mariage. On a vécu 3 ans ensemble. Mais au fil de temps, il s'est aperçu qu'il n'avait pas assez de liberté avec moi. Et ça l'a vraiment refroidi. Il s'est vraiment éloigné de moi.
Vous l'avez fait fuir, en fait, parce que vous vouliez mettre trop la main dessus, vous l'avez fait fuir.
Voilà. Ouais. Voilà, mais au début, je n'étais pas consciente de ça. Et bien après, je crois 6 mois après, qu'il me l'a dit que... S'il était parti, parce que je suis très jalouse, il m'a expliqué tout ce que je faisais. Il m'a mis devant mes réactions. Effectivement, je me suis aperçue que c'était pas vraiment bien ce que je faisais. Et quelque temps, j'ai refait une vie avec un homme marié. Mais j'ai comme l'impression que je reprends ce que le précédent m'avait reproché. Et je n'arrive pas vraiment à m'en défaire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à nouveau, avec votre... Donc c'est votre amant, donc c'est ça. Enfin, c'est pas votre homme officiellement. Vous ressentez beaucoup de jalousie envers lui et du coup, sa femme officielle.
Oui, sa femme a fini par le savoir. Parce que je l'appelais tout le temps, je devais savoir où il était, qu'est-ce qu'il faisait. Et ce qui est là, c'est qu'on est ensemble dans une même entreprise. Alors, dès que je le vois avec une autre femme en train de causer, rire aux esclaves, j'ai envie d'aller, de demander pourquoi et tout. Vraiment, c'est embêtant quand même. Mais je n'arrive pas à m'en défaire.
Mais c'est ça, vous êtes consciente, en fait. Vous êtes consciente de votre situation.
Ah ben, ouais.
Marie-France Paty, oui. Comment elle peut abandonner effectivement cette attitude qui lui fait du mal aussi à Martine?
Oui, je comprends que ça vous fasse du mal, surtout que là, vous cumulez les difficultés, vous cumulez les sources de jalousie. Parce que vous êtes avec un homme marié, donc il y a une autre femme. Donc c'est encore plus difficile pour vous. Et puis ensuite, vous travaillez dans le même endroit que votre ami. Alors là, ça, forcément, vous l'avez sous la main pour le surveiller, quoi. Donc là, vous avez cumulé deux difficultés. Parce que c'est difficile de se défaire de la jalousie, certes, mais là, si vous travaillez dans le même endroit, vous allez être tenté, vous allez penser qu'à ça, le surveiller, voir ce qu'il fait, s'il discute avec un tel. Effectivement, c'est très très compliqué. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est parce que vous avez un travail, puisque vous travaillez avec lui, c'est d'aller travailler, si c'est possible, ailleurs, dans un autre endroit, pour avoir d'autres collègues, pour avoir une autre perspective. Parce que là, en fait, vous vous enfermez toute seule, vous n'avez que lui en perspective. Dans votre travail, dans votre vie, comme il est marié, ça entretient la jalousie vis-à-vis de sa femme. Donc c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait que, si c'est possible, essayer de vous donner à vous un peu d'espace personnel, une perspective à vous, et puis vous réaliser votre vie. Et je pense qu'il vous en aimera davantage.
Ça vous semble quelque chose de réalisable, Martine?
Bon. Aller travailler ailleurs, c'est pas possible.
C'est pas possible? Pourquoi c'est
pas possible? Non, c'est pas possible. Parce que je là où je suis, c'est là où est plantée l'entreprise. Donc, je peux pas aller hors de l'entreprise. C'est pas possible.
Et c'est une grande entreprise. Il y a peut-être un autre service où vous le verriez pas tout le temps? Essayez de limiter, enfin, je sais pas, des. Je connais pas trop comment est votre entreprise.
Est-ce que ça vaudrait le coup pour Martine, par exemple, quand même de rencontrer un psychothérapeute? Est-ce que vous avez déjà essayé de. Martine?
L'idée m'était venue, mais j'avais évité d'y aller. J'avais peur que. Je me suis dit, mais je ne suis pas quand même folle pour aller jusque-là, donc j'avais hésité.
Moi, je crois que ça serait une bonne idée parce que ça vous donnerait un espace à vous où vous pourriez parler de votre jalousie, de votre difficulté, de tout ce qui est trouvé peut-être la cause de votre jalousie. Est-ce que ça fait sûrement partie de votre histoire et ça vous aiderait, je pense. Vous savez, la clientèle des psychothérapeutes, c'est pas les fous, hein. C'est des personnes comme vous et moi qui ont des problèmes de vie, de jalousie, d'angoisse, de travail, et la vie, c'est pas simple, hein. Il y a plein de difficultés et on n'est pas parfait, donc on a envie de comprendre comment on fait, comment on pourrait faire autrement, etc. Donc, je pense que un psychothérapeute ou une psychologue, ça pourrait vous permettre de réfléchir, de prendre un peu de recul et vous donner un espace à vous où vous pourriez un peu faire le point sur votre relation.
Merci beaucoup, hein, Martine, pour votre témoignage. On vous encourage alors effectivement à faire un pas vers un psychothérapeute qui peut effectivement vous aider. Merci beaucoup, Martine, pour votre témoignage. Alors, Martine connaît la jalousie, elle n'est pas la seule, vous le vivez peut-être aussi à cause d'un conjoint ou d'une conjointe. Comment vaincre ce sentiment? On continue après le tout nouveau titre d'Angèle, Jalousie, titre bien choisi par Victor Hull.
Jalousie, jalousie, nuance avec parano, de pas grand-chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi, c'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Elle est belle, qu'elle est belle. écrasant les premières étincelles. Jalousie, c'est pas rien. Tu nous rends malade. Oh, quand le doute roule sur nos épaules, quand dans nos têtes il prend un rôle, c'est là que tu agis. Mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est belle. Te veux, je crois ça se voit. Jalousie me dit qu'elle est là, qu'elle est là. Jalousie.
Elle empoisonne l'existence, peut se révéler maladive. Je veux parler de la jalousie dans Priorité Santé aujourd'hui. Alors comment comprendre ce sentiment au cœur des relations humaines? À partir de quand aussi faut-il s'alarmer de la jalousie? Et à partir de quand devient-elle maladive? Comment peut-on la soigner? Nous attendons vos appels au 33 1 84 22 75 75. Et nous sommes avec Marie-France Paty qui est là donc pour répondre à vos questions. Marie-France Paty, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute. Et vous publiez « La jalousie, la métamorphose de l'envie » aux éditions In Press. Au début, dans votre livre, vous parlez de l'origine aussi de ce mot « jaloux ». En fait, ça vient de « ardeur ».
Oui, en grec.
En grec.
Oui, c'est « zélos », c'est l'ardeur, l'empressement.
Et qu'est-ce que ça nous dit du coup de ce mot, de ce sentiment?
Déjà, ça nous dit effectivement que c'est relié à un désir. Vous voyez, voilà, c'est quelque chose qui nous pousse, qui... Et l'empressement, on voit bien qu'il y a un affect derrière. Voilà. Alors que l'envie, c'est invidia. Et donc, c'est pas la même chose.
Alors, il y a plusieurs formes. Il y a cette forme normale, on dirait, de jalousie. Vous en disiez, c'est celle qui suscite le désir, qui nous pousse à faire mieux. Et puis, il y en a une autre. À partir de quand, je dirais, ça devient envahissant, que ça nous pose un problème de vivre avec.
Alors, la jalousie, ça peut être stimulant et puis ça peut être aussi un petit peu envahissant dans le couple quand la personne est trop jalouse. Ça peut déraper aussi vers des comportements délirants. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne perd pied, parce que le soupçon, c'est toujours un soupçon imaginaire. On imagine qu'elle est avec un autre, on imagine que... mais bon, l'imagination, c'est entre le rêve et la réalité.
Oui, quand vous parlez d'imagination, oui. Il y a un mot d'ailleurs de Cervantes, puisque vous parlez beaucoup de littérature aussi dans votre livre, qui dit « Les jaloux transforment les nains en géants et les soupçons en vérité ».
Voilà, c'est ça le soupçon. À ce moment-là, pour celui qui se dirige vers une activité délirante, le soupçon qui pouvait rester imaginaire, et à ce moment-là, on le vérifie, bon, on est jaloux, mais ça va, on peut être assuré, là, il devient une réalité. Et là, à ce moment-là, ça devient une conviction délirante. On est persuadé que la personne avec qui on est nous trompe, et on en est convaincu, quoi. Et une conviction délirante, il n'y a pas moyen de faire en sorte de...
Non. Oui, donc c'est vraiment aux frontières de la paranoïa.
Enfin, ah oui, absolument, oui. Bah, d'ailleurs, Freud fait très, très bien. Pour lui, c'est vraiment très apparenté. Et à ce moment-là, effectivement, ça devient une maladie.
Alors, en Côte d'Ivoire, vous écrivez une expression qui est assez marrante. Vous dites « les jaloux vont maigrir ».
Oui, c'est un collègue qui m'avait donné cette expression. Et en fait, on voit bien que la jalousie, là, travaille au corps. C'est-à-dire, elle est très proche de l'angoisse. On a une angoisse de perdre la personne ou d'être humilié, parce qu'il y a l'idéal aussi qui s'en mêle. Et donc, ça nous travaille au corps. On a des sueurs, on maigrit, on mange plus, on dort plus. Donc, ça travaille notre corps comme une angoisse. Donc, les jaloux vont maigrir. Ça fait référence à ce travail sur le corps de la jalousie.
Tes paupières de fièvre sont à moi, sont à moi. Tes rêves sont à moi, sont à moi, sont à moi.
Priorité santé.
Jaloux.
Sur RFI.
Alors comment se vit et comment se soigne la jalousie en Afrique? Maintenant, nous allons partir à Lomé au Togo. Nous avons rendez-vous avec Jean-Pierre Allais. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour Caroline.
Alors c'est Sandrine Mercier aujourd'hui. Merci hein, en tout cas Jean-Pierre
oui.
Allais.
Excusez-moi, bonjour Sandrine.
Ouais, avec plaisir. Vous êtes docteur en psychologie clinique et de la santé, psychothérapeute, et vous êtes spécialiste des droits humains et droits de l'enfant. Alors est-ce que vous, par exemple au Togo, il y a des personnes vraiment qui consultent pour jalousie? On entendait Martine tout à l'heure qui n'osait pas franchir le cap. Est-ce qu'il y en a quand même qui osent venir vous voir?
Oui, moi dans ma consultation, il y a quelques rares cas, surtout les femmes, qui viennent consulter pour en fait les conséquences et l'impact de la jalousie sur leur relation de couple. Et donc, en regardant, en évaluant, des fois, on constate que il s'agit d'une jalousie morbide ou pathologique, comme on dit. C'est-à-dire une jalousie qui est envahissante, dysfonctionnelle, inadaptée, avec des distorsions de la réalité et qui, des fois, est généralisée sur plusieurs secteurs de la vie relationnelle. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui viennent consulter pour des problèmes d'insomnie, de troubles anxieux dépressifs, et qui s'inscrivent dans le contexte du travail, de la famille, même de la fratrie. Et quand on évalue, on voit que à la base, il y a des problèmes de jalousie. Le motif n'est pas formulé comme la jalousie, mais à la fin, on découvre des problèmes de jalousie.
Mais est-ce qu'en Afrique, c'est un sentiment qu'on ose dire comme ça facilement ou pas?
Il faut dire que la jalousie, elle est perçue socialement comme un sentiment négatif. Et surtout, venant des hommes, c'est comme un homme jaloux, c'est comme un homme qui manque de confiance en lui, qui n'a pas suffisamment de virilité. Et donc, c'est pas très bien perçu. C'est cela qui explique le fait que chez les hommes, le plus souvent, c'est dénié. Ils ne reconnaissent pas. Par contre, les femmes, c'est plus ou moins accepté. Oui, et malgré le fait que dans le contexte social, la polygamie est autorisée, malgré cela, la jalousie, elle est plus ou moins tolérée. Mais lorsqu'elle a un impact important sur la relation de couple, la relation familiale ou la relation sociale, là, elle est censurée vraiment, elle n'est pas acceptée.
Et justement, je me posais la question avec la polygamie, est-ce que ça crée des jalousies exacerbées de la part des femmes?
Il faut dire que dans le contexte social en Afrique, il y a un système social d'autorégulation du phénomène de jalousie. Lorsque, par exemple, vous êtes dans un couple polygame, les choses sont déjà préorganisées. La première femme a des privilèges et des prérogatives, la seconde en a aussi. Il y a un mode de gestion des enfants, il y a un mode de gestion des biens. Le mari qui doit entretenir les femmes. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont déjà pré-organisées et qui diminuent l'impact de la jalousie. Mais cela n'empêche pas que dans le sentiment d'exclusivité que chaque personne recherche dans l'amour, les femmes peuvent ressentir de la jalousie et l'exprimer sous des formes plus subtiles et des fois entraîner des souffrances et des fois même des séparations.
Marie-France Paty, vous voulez réagir?
Oui, par rapport à ça, effectivement, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure de la fratrie. En fait, là, effectivement, au niveau social, la polygamie, elle est reprise, elle est organisée avec des codes, etc., qui fait que elle ne devrait pas apparaître, cette jalousie. Mais en fait, elle fait tellement partie de l'humain qu'elle apparaît tout de même parce que chacun recherche l'exclusivité. On ne veut pas partager l'amour. C'est pas possible.
Alors du coup, oui, quel est votre message alors, par rapport à ça, Jean-Pierre Allais?
Bon, le message que j'ai, c'est que... en fait, le constat que j'ai fait dans ma pratique, c'est que surtout les couples ou même dans les relations de fratrie ou les relations de travail, les problèmes n'arrivent au niveau du psychologue ou du thérapeute que quand il est déjà suffisamment grave, il est ancré, qu'il a créer beaucoup de difficultés. Donc, il n'y a pas ce réflexe de se lever et de venir très tôt poser le problème pour demander de l'aide. Donc, le premier message, c'est que lorsque vous sentez que ce sentiment de jalousie
n'est pas dans l'ordre de la stimulation de votre relation, n'est pas dans l'ordre de donner juste une alerte pour dire que vous vous sentez mal à l'aise et que vous ne vous sentez pas en sécurité, et que vous voyez que ça finit par devenir négatif sur votre relation, ça entraîne des distorsions de la réalité, ça vous envahit, ça envahit la vie de l'autre. Je crois qu'il faut avoir le courage de venir demander de l'aide à un psychologue ou bien à un psychothérapeute pour qu'on puisse vous aider.
Oui, parce que la vie des gens jaloux, elle s'auto-détruit, en fait. Il y a vraiment un sentiment de destruction de tout ce qu'on touche, des gens avec qui on vit. Hein. Ça devient vraiment l'enfer.
Mais c'est vrai qu'ici aussi, en fait, les gens qui viennent consulter, c'est souvent quand ça devient un enfer. Avant, la jalousie, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, on vit avec, on essaye de se débrouiller, et on va consulter quand c'est un peu des situations extrêmes. Donc c'est un petit peu, je suis tout à fait d'accord avec il faudrait consulter avant, mais bon.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Allais, pour avoir été avec nous en direct depuis le Togo, donc depuis Lomé, où vous êtes docteur en psychologie clinique et de la santé, psychothérapeute, spécialiste des droits humains et droits de l'enfant. Merci beaucoup, Jean-Pierre Allais. Très bonne journée.
RFI à Lomé.
Et oui, il n'y a pas que les femmes qui sont concernées par la jalousie. Là, on entend un homme qui le chante. Priorité santé, aujourd'hui, on parle de la jalousie dans le couple, mais aussi dans le milieu professionnel, envers ceux qui réussissent. Alors, quand faut-il s'en inquiéter? Comment en guérir? Nous sommes avec Marie-France Paty, donc, qui est avec nous pour répondre à vos questions. 33 1 84 22 75 75. Donc, Marie-France Paty vient de publier La jalousie, la métamorphose de l'envie aux éditions InPress. Et on va prendre tout de suite Vianney qui nous appelle de Bangui en Centrafrique. Bonjour Vianney.
Bonjour.
Alors on écoute votre témoignage.
Oui, mon témoignage a ce thème abusif.
Oulala, j'ai l'impression que la ligne est très mauvaise de Bangui. On va essayer de vous rappeler. Allez-y, on vous écoute.
Je dis mon témoignage a pour thème la jalousie abusive. Donc, c'est moi qui a pu titrer ça. J'ai une relation et voilà, je la trouve, ma conjointe, trop jalouse. Quoi. Elle est à l'excès de la jalousie. Donc, je ne sais pas. Comment me protéger face à cette domination parce que j'ai du mal à supporter cette jalousie, même avec les membres de ma famille, mes proches, voilà, mes collaborateurs, et puis voilà. Ouais. Je constate souvent tous ces mots de jalousie. Je ne sais pas comment me protéger face à cette jalousie-là.
Merci beaucoup, Vianney, pour votre témoignage. Alors, je vais résumer un peu parce que la ligne n'était pas très très bonne. Effectivement, vous vivez une relation aujourd'hui avec votre copine, mais en gros, elle se met en colère, elle ne supporte plus les relations que vous avez avec d'autres filles, même dans le cadre de votre travail, de vos relations amicales. Et donc, vous cherchez à vous protéger de cette relation. Alors, Marie-France Paty, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas pareil?
C'est un petit peu compliqué. Si ça devient insupportable et si ça vous nuit aussi dans votre travail, la meilleure protection, c'est la fuite, quelquefois. C'est peut-être un petit peu brutal, mais voilà, c'est parce que il y a qu'elle qui peut changer. Vous pouvez pas, vous, la faire changer. Vous pouvez la rassurer, mais si elle est pas, si ça marche pas en la rassurant, voilà.
Parce qu'on dit souvent, c'est ça, il y a que la fuite. Mais on dit souvent que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est un peu, je cite dans Molière, là, le jaloux aime plus, mais le non-jaloux aime mieux. C'est ce que la réponse qui est faite. Effectivement, la jalousie fait un peu partie de l'amour parce que ça prouve qu'on est attaché à son partenaire. C'est un peu une preuve, c'est pris comme une preuve d'amour. Mais pas forcément. Ça dépend de la conception de l'amour. On peut très bien, au contraire, estimer que, en faisant confiance à la personne avec qui on vit, en lui laissant sa liberté, en lui faisant confiance, c'est une preuve d'amour qui est bien plus importante. Mais ça, la conception de l'amour intervient dans la jalousie.
Oui, parce que certaines personnes qui ne sont pas jalouses, des fois, peuvent se poser la question de savoir, mais est-ce que je suis vraiment amoureuse puisque je ne ressens pas cette jalousie?
Voilà, exactement. Oui, alors qu'en fait, bah oui, on peut aimer autrement. Ça dépend de notre conception de l'amour et notre façon d'aimer.
Alors, on va prendre un dernier témoignage. C'est Alain Zérécoré de Guinée qui nous appelle. Bonjour, Alain.
Bonjour Sandrine, bonjour Marie-France.
Bonjour, on écoute votre témoignage Alain.
Bah, en fait, mon témoignage c'est que je me trouve être victime d'une jalousie dépassée. Je suis en couple, cela fait presque 10 ans. Bien, je suis un client. Le problème c'est le suivant. En fait, je ne suis pas au boulot.
Excusez-nous Alain, alors malheureusement la ligne est très 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 mauvaise, je vais juste résumer un peu, on vous prendra à l'antenne à une autre occasion Alain, je l'espère vivement. Donc en gros, si j'ai bien compris, vous êtes jaloux dans le couple, dans les deux quoi, mais vous aimeriez devenir moins jaloux, donc on va terminer avec ça Marie-France Patti. Comment prendre confiance en soi, comment se libérer de ce sentiment? Bon, c'est un travail de toute une vie, mais bon, comment est-ce qu'on peut faire?
C'est vrai que la confiance qu'on a en soi et en l'autre est importante dans la jalousie amoureuse. C'est la base, quoi, en fait.
Et comment on fait pour se récupérer cette confiance en soi,
ça,
quand elle est meurtrie?
C'est un travail sur soi, en fait. C'est un travail personnel sur soi qu'on peut faire avec l'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute. Par exemple.
Oui, parce que quand ça devient envahissant, vous l'avez dit, quand on commence à imaginer des scénarios délirants, ça rend la vie vraiment, c'est un enfer. Alors lui, Alain, voudrait devenir moins jaloux. Il y a d'autres aussi témoignages, il y en a beaucoup qui vont dans ce sens-là, de gens qui sont hyper jaloux et qui se supportent plus dans cet état-là, mais qui n'arrivent pas à passer outre, qui n'arrivent pas à se contrôler.
C'est difficile de se contrôler, parce que comme on le disait tout à l'heure, la jalousie travaille le corps aussi. Hein. On a du mal à dormir, on a plus faim, on a des tas de symptômes qui montrent qu'on est travaillé de l'intérieur par la jalousie. Même si elle n'est pas pathologique, elle est simplement envahissante.
Oui, mais qu'est-ce que ça dit de notre enfance? Parce que, par exemple, toutes les raisons d'envier son prochain, elles sont multiples. Et il y en a certaines, justement, qui vont ressentir de l'envie. Quand d'autres vont trouver ça bien, oui. Qu'est-ce qui se passe
par rapport à l'envie? Si vous voulez, quand on est bien dans sa peau, qu'on estime que ce qu'on a, ça nous suffit, on n'envie pas les autres finalement, on se contente de ce qu'on a, on réalise ses propres projets, voilà, on fait son petit chemin sans bon, les autres, chacun fait sa vie quoi, on n'envie pas les autres. Mais là, pour arriver à ça, il faut vraiment être bien dans sa peau, avoir confiance en soi et confiance en l'avenir. Et aussi confiance aux autres.
Mais il y a eu une faille à un moment quand on ressent de l'envie comme ça. Il y a une faille.
C'est qu'il y a une faille. Mais c'est dans la relation vraiment des premiers mois, quoi, je dirais, où on n'a pas senti un environnement suffisamment sécurisant. Et à ce moment-là, oui, ça crée par la suite. Des problèmes comme ça.
Merci beaucoup à Marie-France Patti d'avoir passé cette heure avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et vous sortez La jalousie, la métamorphose de l'envie aux éditions In Press. Et vous êtes également secrétaire et intervenante de l'association de psychanalyse EPSI, donc c'est l'école propédeutique à la connaissance de l'inconscient. Et c'est situé à Paris. Merci beaucoup.
Merci
pour avoir répondu à tous nos auditeurs.
Merci à vous.
Priorité santé. Sandrine Mercier.
Et on termine sur une étude inquiétante sur les menaces qui pèsent sur le traitement du paludisme. Et nous sommes avec Pierre Druil. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors merci d'être avec nous.
Vous êtes tué aussi brutalement.
Eh bien oui, puisque vous avez fondé, vous, Vac for All. C'est une start-up originaire de l'Institut Pasteur. Alors dites-nous un peu, on va d'abord parler du paludisme. Bon, c'est la maladie parasitaire la plus meurtrière au monde. C'est quoi les derniers chiffres que vous avez concernant cette maladie?
Écoutez, il y a toujours 3,5 milliards d'individus qui vivent dans des zones où le paludisme se transmet, ça ne veut pas dire qu'ils sont infectés. On accepte le chiffre qu'il y a 200 millions de malades chaque année, mais il y a peut-être un peu plus parce que c'est très difficile à mesurer dans certaines régions du monde. Il y a presque le double ou le triple qui est porteur de parasites, d'ailleurs sans être malade. Et il y avait jusque récemment environ 1 à 3 millions de décès par an, c'est très difficile à mesurer, qui a été réduit de façon drastique grâce à une action internationale majeure, importante, avec énormément de moyens, qui a la particularité de reposer sur pratiquement un seul médicament, qui est celui découvert par des praticiens chinois, et dont le principe actif a été isolé d'ailleurs par un Chinois qui a eu le prix Nobel. Donc grâce à ce produit et à d'autres mesures, en particulier l'amélioration des soins de santé primaires, on a pu réduire de moitié la mortalité, on a environ 500 000 cas par an.
Alors c'est un sujet qui touche beaucoup, beaucoup nos auditeurs, et c'est vrai qu'avec votre étude, là, sur ces menaces qui pèsent donc sur le traitement du paludisme, sur ce médicament, donc c'est le... Alors attendez... L'artémisine.
Le médicament chinois, parce que c'est toute une famille de composés dérivés de l'artémisine.
Alors ça fait un peu peur quand même de savoir que il y a une capacité, le parasite en fait a la capacité de développer une résistance complète à ces médicaments.
Oui, voilà. Pas seulement à ce médicament, mais également à d'autres simultanément, ce qui est encore plus préoccupant.
Alors, parlez-nous de cette étude que vous avez menée.
On travaille sur des vaccins antipaludiques. Mais comme on avait développé un modèle de laboratoire dans lequel on peut avoir des quantités énormes des parasites humains, presque autant, si vous voulez, chez une souris immunocompromise qu'il y en a chez un homme malade. Donc, on a voulu utiliser ce modèle. On s'est dit qu'on était un petit peu en devoir de faire cela parce que ce médicament était utilisé, et c'est le médicament de dernier recours, pour tous les traitements sur la planète, et même avec une tentative d'élimination ou d'éradication de la maladie qui me paraît un peu trop ambitieuse. Et donc on s'est dit, avec ce modèle, on peut étudier à quelle vitesse on risque d'avoir des ennuis. Et alors, on a été quand même extrêmement surpris et affolés, c'est pour ça qu'on souhaite communiquer nos résultats à la communauté internationale, qu'on a obtenu extrêmement rapidement une résistance, mais gigantesque à ce produit, puisqu'on a multiplié par 3,000, si vous voulez, la réponse, donc c'est énorme. Et puis on a induit, par mégarde, simultanément une résistance au deuxième dernier composé actif. Incidemment, c'est un autre médicament découvert par des praticiens mais sud-américains, la quinine. Et ce sont les deux derniers médicaments restants, le dernier recours, tous les deux, pour traiter les formes graves, celles qui sont responsables de la mortalité.
Oui. Alors, donc, risque donc d'être très démunis face au paludisme. Donc, vous proposez quoi? Vous dites quoi, vous, avec cette étude, au final, Pierre-Louis?
Je dis d'abord que, et si vous voulez, il faut le communiquer et en tenir compte, parce que, après, il faut être modèle devant une endémie qui est très complexe, avec une écologie très complexe, des modalités très différentes en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, c'est pas pareil. Mais ce que on veut dire, c'est que derrière, il n'y a pas, pour le moment, de remplacement dans le pipeline. Or, si vous voulez découvrir un nouveau médicament, ça prend normalement 12-14 ans, peut-être un peu moins pour des produits qui seraient déjà pressentis, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on risque d'avoir une traversée du désert considérable, avec deux phénomènes graves. D'une part, un retour à la mortalité d'autrefois, c'est évident. C'est
oui, on comprend bien, effectivement, qu'on va être démunis face au paludisme, en tout cas, affaire à suivre. Merci beaucoup, Pierre Druy, le fondateur de Vac4All. Merci à toute l'équipe, à Cetus Samaké, Victor Hull et Yann Lény. Lundi, Caroline Paris revient avec un reportage sur le terrain du VIH à Madagascar. Je vous souhaite un très très bon week-end. Portez-vous bien.
C'est Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.